Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 12 novembre 2024. En direct de Washington, Rosine Mounezero. Pour commencer, les titres. Le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, appelle à la vengeance après des violences contre ses partisans pendant la campagne pour les élections législatives. En Haïti, le nouveau Premier ministre Alix Didier, fils aimé, s'engage à rétablir la sécurité. Ici aux États-Unis, Donald Trump a prévu de nommer des proches à des postes importants de sa future administration. La COP29 sur le climat à Bakou se poursuit lors de la conférence. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a défendu ce mardi le droit des pays à exploiter leur pétrole. Et dans notre partie magazine, la région séparatiste du Somaliland organise des élections générales demain mercredi.
Nous envoyons un message à la communauté internationale pour qu'elle reconnaisse notre pays. Le Somaliland est doté d'un gouvernement pleinement opérationnel. Il y a des partis politiques, une monnaie. Il est différent de la Somalie. Il est stable, c'est un pays démocratique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko appelle à la vengeance après des violences menées, selon lui, contre ses partisans par des opposants lors de la campagne pour les élections législatives prévues dimanche. Les précisions de Nani Talani.
Ousmane Sonko, tête de liste du parti PASTEF aux législatives et chef de gouvernement, fait état sur son compte Facebook d'attaques subies par son camp à Dakar, Saint-Louis et Koungheul. Il les impute à des sympathisants du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui dirige une coalition concurrente. Que chacune des agressions subies par PASTEF de leur part depuis le début de la campagne, que chaque patriote qu'ils ont agressé et blessé soit proportionnellement vengé. Nous exercerons notre droit légitime à la riposte, a déclaré M. Sonko. Il assure que des plaintes ont été déposées et déplore qu'il y ait eu zéro arrestation. Barthélémy Diaz et sa coalition ne doivent plus battre campagne dans ce pays, dit-il. La coalition de M. Diaz, qui affirme avoir été visée par des multiples attaques, a dénoncé un appel au meurtre assumé par M. Sonko. Elle le tient pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à ses membres. Le Sénégal tient dimanche des législatives anticipées. Le parti PASTEF de M. Sonko cherche une majorité au Parlement pour mettre en œuvre ses promesses de rupture.
Pam Maurice, le chef de l'opposition Navin Ramgoolam, a revendiqué mardi la victoire de sa coalition aux élections législatives après que le Premier ministre sortant, Pravind Kumar Jugnauth, a reconnu une large défaite. Navin Ramgoolam, chef du parti travailliste âgé de 77 ans et ancien Premier ministre, a déclaré à ses partisans que l'alliance du changement qu'il menait pour les législatives avait remporté une victoire écrasante à l'issue du scrutin qui s'est tenu dimanche. 60 députés ont également été élus sur l'île Maurice. Le principal opposant mozambicain, Venancio Mondlane, a appelé lundi ses partisans à 3 nouvelles journées de manifestation à partir de mercredi et à se défendre après la victoire proclamée du parti au pouvoir. Après une grande marche au bilan meurtrier dans la capitale Maputo jeudi, le candidat à la présidentielle a invoqué le droit de légitime défense dans toute sa puissance des manifestants à l'avenir. Les gens ont le droit de se défendre quand ils sont tués. C'est pourquoi le peuple se défendra avec toutes les armes possibles et imaginables, a-t-il prévenu depuis l'étranger, qui dit avoir rejoint pour des raisons de sécurité. Le nouveau Premier ministre d'Haïti, Alix Didier, fils aimé, s'est engagé hier à rétablir la sécurité dans son pays en plein chaos. Il remplace Gariconi, limogé après un conflit avec le conseil présidentiel de transition. Le point avec Jean-Roger Billon.
Alix Didier, fils aimé, a promis lors de sa prestation de serment à Port-au-Prince de travailler sans relâche à la cohésion politique et au rétablissement de la sécurité dans le pays. Le nouveau Premier ministre a également évoqué de prochaines élections alors que le pays est privé de président depuis 2021. Son prédécesseur, Gariconi, avait été nommé début juin pour tenter de stabiliser le pays. La décision de le démettre de ses fonctions est survenue dimanche, alors que le Conseil présidentiel souhaitait changer des responsables de plusieurs ministères contre l'avis du chef du gouvernement sortant. M. Kony a dénoncé une décision entachée d'illégalité. Lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les acteurs politiques haïtiens à surmonter leurs divergences et à travailler ensemble, selon son porte-parole. Signe du climat de violence dans ce pays des Caraïbes, juste avant l'investiture de M. Fils-Aimé, l'aéroport international d'Haïti a été fermé après que des gangs ont ouvert le feu sur un vol commercial des États-Unis.
Au Niger, 9 combattants du mouvement rebelle du Front patriotique de libération, FPL, créé en soutien au président renversé Mohamed Bazoum, se sont rendus lundi a annoncé le gouvernorat d'Agadez dans le nord. Le 1er novembre, Idrissa Madaki, le porte-parole du FPL, ainsi que 3 autres combattants s'étaient rendus de manière séparée dans 2 villes proches de la frontière libyenne, selon l'armée nigérienne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, continue de dévoiler le casting de sa future administration avant une rencontre capitale avec le président sortant Joe Biden à la Maison-Blanche demain. Jacques Aristide.
Donald Trump, qui a opéré un comeback extraordinaire en remportant la présidentielle il y a une semaine tout juste, avance au pas de charge pour les nominations clés après avoir désigné 3 de ses lieutenants à l'ONU, à l'environnement et à l'immigration. Le président élu devrait annoncer, selon des médias américains, qu'il choisit l'influent sénateur Marco Rubio au poste de secrétaire d'État. Connu pour être partisan d'une ligne très dure face à la Chine et à l'Iran, cet élu de 53 ans co-présidait jusqu'ici la commission du renseignement au Sénat. Un autre élu de Floride, Michael Walls, est lui pressenti au poste très stratégique de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Au-delà du volet diplomatique, le président élu devrait aussi procéder à la nomination de la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, une fidèle parmi les fidèles, pour piloter le ministère de la Sécurité intérieure, chargé des douanes et des gardes-frontières. Donald Trump, qui poursuivra ses nominations tout au long de la semaine, va être à Washington demain pour une rencontre avec Joe Biden. Le président démocrate a promis un transfert pacifique et ordonné des pouvoirs avec son successeur républicain après la défaite de sa vice-présidente Kamala Harris à l'élection du 5 novembre.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rend mardi à Bruxelles pour des entretiens d'urgence avec les Européens afin de tenter d'accélérer l'aide à l'Ukraine avant l'arrivée au pouvoir du président élu Donald Trump. Le secrétaire d'État rencontrera mercredi des responsables de l'OTAN et de l'Union européenne. De son côté, Donald Trump, qui fait son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, est déjà à la manœuvre. Il s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi qu'avec le président russe Vladimir Poutine pour lui demander de ne pas provoquer d'escalade dans la guerre, selon le Washington Post. Les débats se poursuivent à la COP29 à Bakou. L'hôte de la conférence annuelle de l'ONU sur le climat, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, a défendu ce mardi le droit des pays à exploiter leur pétrole. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a répété et assumé son expression de cadeau de Dieu pour désigner les hydrocarbures qui ont fait la richesse de son pays. Sans nommer directement les États-Unis, il s'est insurgé contre les médias fake news du pays, qui est le premier producteur mondial de gaz et de pétrole et produit 30 fois plus de pétrole que l'Azerbaïdjan. Il ferait mieux de se regarder dans le miroir, affirme le président azerbaïdjanais, soulignant que son pays représente 0,7% de la production mondiale de pétrole et 0,9% de celle de gaz. Les dirigeants des pays africains et du Pacifique, eux, plaident pour plus d'aide financière pour les aider à investir dans les énergies renouvelables et renforcer leurs économies face aux sécheresses et inondations du futur. Le Zimbabwe subit l'une des pires sécheresses de son histoire, a lancé son président Emmerson Mnangagwa. Les flux d'argent financent sans peine les guerres, mais dès qu'il s'agit d'adaptation climatique, ils sont minutieusement examinés, a accusé le président des Maldives, Mohamed Mouizou.
L'Allemagne se dirige vers des élections législatives anticipées le 23 février prochain pour se doter d'un nouveau gouvernement après l'éclatement de la coalition d'Olaf Scholz minée par les désaccords. La date du scrutin, qui a fait l'objet de plusieurs jours de bras de fer, a été approuvée par le principal parti d'opposition, les conservateurs de la CDU-CSU. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Les bateaux européens qui pêchent le thon et le mérou vont cesser de pêcher dans les eaux sénégalaises à partir du dimanche soir, suite à l'expiration et au non-renouvellement, pour le moment, de l'accord entre l'Union européenne et le Sénégal. Cette décision fait suite à des défaillances dans la lutte contre la pêche illégale notifiée par la Commission européenne en mai. Environ 600 000 personnes vivent de la pêche au Sénégal. La Centrafrique milite pour la levée totale de l'embargo sur ses exportations de diamants imposées depuis plus de 10 ans après les crises politico-militaires de 2013. Lors de la réunion du processus de Kimberley à Dubaï ce mardi, Bangui a indiqué que les conditions pour lever l'embargo sont désormais remplies concernant la sécurité et la traçabilité des diamants. En 2011, la RCA a exporté plus de 323 000 carats de diamants, générant environ 45 millions d'euros de revenus contre seulement 496 000 euros. Pour terminer, au Kenya, des agriculteurs utilisent des ruches d'abeilles autour de leurs terres pour réduire les conflits avec les éléphants. Le bourdonnement des abeilles fait fuir les pachydermes, protégeant ainsi les récoltes. Cette méthode est efficace dans 86% des cas. Bien que coûteuse, la méthode est moins chère que les clôtures électriques et génère des revenus grâce au miel récolté.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Suite ce mardi des matchs de la deuxième journée de la Ligue des champions féminines de la CAF au Maroc.
Oui, opération relance réussie pour les Sud-Africaines de University of Western Cape FC qui ont battu les Aigles de la Médina du Sénégal 2-0. Lors de leur première sortie, les Sud-Africaines avaient perdu 2-0 devant les Congolaises du tout-puissant Mazembe. Les Sénégalaises, elles, avaient été dominées 3-0 par le club hôte, l'AS FAR du Maroc, et enchaînent ainsi avec une deuxième défaite qui compromet sérieusement leurs chances de qualification pour les demi-finales. Pour rappel, cette Ligue des champions féminines de la CAF a débuté le 9 novembre dernier et se poursuivra jusqu'au 23 novembre dans deux villes marocaines, El Jadida et Casablanca. Elle met aux prises 8 clubs de foot féminin.
Pour ces deux derniers matchs en éliminatoire de la CAN 2025, le Ghana évoluera sans Thomas Partey.
Le sélectionneur Otto Addo a écarté le milieu de terrain d'Arsenal pour les matchs de qualification contre l'Angola et le Niger. Mes raisons sont confidentielles. J'espère qu'il nous rejoindra pour la prochaine fenêtre internationale en mars pour les qualifications pour la Coupe du Monde, a déclaré le coach Addo à propos de l'absence de Thomas Partey, 31 ans, qui a marqué 13 buts en 49 sélections. L'attaquant de Leicester City, Jordan Ayew, remplace le milieu de terrain de West Ham, Mohamed Kudus, en tant que capitaine des Black Stars. Kudus a porté le brassard le mois dernier lors de la double confrontation contre le Soudan, dont ils n'ont pris qu'un seul point, mettant le Ghana en danger de manquer la phase finale pour la première fois depuis 2004. Le Ghana doit s'imposer sur le terrain de l'Angola, leader du groupe, vendredi et à domicile contre le Niger, 3 jours plus tard, pour espérer se qualifier pour la CAN Maroc 2025.
Le tirage au sort du Mondial des clubs aura lieu le 5 décembre.
Tous les qualifiés pour ce tournoi quadriennal, dont la première édition aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 dans 12 stades américains, seront connus d'ici là. Il ne manque pour l'heure que le vainqueur de la Copa Libertadores, dont la finale 100% brésilienne, va opposer le 30 novembre l'Atlético Mineiro au Botafogo de football et Regadas.
Ici en NBA, Cleveland reste toujours invaincu.
Après 12 matchs et une nouvelle victoire arrachée face aux Chicago Bulls, 119-113, les Cleveland Cavaliers sont toujours invaincus cette saison en NBA. Les Cavs ont pu compter sur Donovan Mitchell, qui a inscrit 36 points. De son côté, Victor Wembanyama, 34 points, 14 rebonds et 6 passes décisives, a mené San Antonio à la victoire 116-96 contre Sacramento. Battu dimanche à domicile par Golden State, Oklahoma City s'est repris en battant chez eux les Los Angeles Clippers 134-128. Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 45 points pour le Thunder.
Merci à Kouba. Vous écoutez VOA Afrique, Rosine Monezero de retour pour les dossiers du jour. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a appelé à la vengeance après des violences qu'il affirme avoir été perpétrées contre ses supporters avant les élections parlementaires prévues dimanche. Ces propos ont suscité l'indignation de l'opposition qui a vu un appel au meurtre. Eric Manilakiza, adjoint à Dakar, Aliantine, fondateur d'Africa Jom Center.
Nous avons besoin du sens des responsabilités de la part des leaders politiques qui tous, d'ailleurs, doivent bannir la violence, quelle qu'en soit la forme et d'où qu'elle vienne. Et effectivement, rappeler aussi que le rôle de l'État, qui est le rôle régalien, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et il faut que l'État le fasse et que tous les auteurs d'actes de violence puissent être arrêtés et mis hors d'état de nuire. Nous avons vu effectivement avec ce qui s'est passé à Saint-Louis que le gouverneur a agi, c'est une très bonne chose. On va vers Dakar et Dakar est un enjeu extrêmement élevé, tant pour l'opposition que pour le pouvoir. C'est ce qui explique effectivement ces tensions, ces violences et puis cette espèce de, comment dirais-je, de nervosité de la part de tous. Mais nous rappelons aux leaders politiques quand même qu'ils doivent avoir un sens élevé des responsabilités, ils doivent savoir garder leur sang-froid, quelle que soit la situation. Mais les actes de violence qui se déroulent en ce moment, de la part de l'opposition comme du pouvoir, nous les condamnons sans réserve et nous appelons vraiment les autorités religieuses, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de voir autoriser du calife général des Mourides, de l'ensemble des autres califes, du clergé et également de l'archevêque de Dakar pour dire assez, il nous faut des élections apaisées, transparentes et inclusives.
Quelle est la responsabilité du Premier ministre Ousmane Sonko dans l'escalade de tensions et comment pourrait-il agir pour apaiser la situation?
Écoutez, c'est lui quand même, c'est le numéro 2 de l'État. C'est le numéro 2 de l'État, c'est vrai, il est chef de parti, il est aussi en campagne électorale, mais en réalité, le rôle de l'État, c'est tout simplement d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Je pense que des recommandations très claires doivent être faites au ministre de l'Intérieur, au ministre également de la Justice, et c'est le président de la République lui-même qui est intervenu à deux ou trois reprises. De très belles interventions du président Bassirou Diomaye Faye pour également interpeller lui-même son ministre de l'Intérieur et son ministre de la Justice. Et je pense que l'État doit agir maintenant, sans faiblesse. Son coup doit toujours rester sage, avoir un sens élevé des responsabilités, parce que quand on a les responsabilités de l'État, si on veut gouverner vraiment et réussir, mais il faut la paix. C'est extrêmement important que lui-même, en première ligne, pour demander la paix, demander effectivement le calme. Et ça va suivre. C'est vrai, ça va suivre.
Aliantine, fondateur d'Africa Jom Center. En Haïti, alors qu'un nouveau gouvernement entre en fonction, la violence des gangs armés semble embraser toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des tirs ont même visé deux avions commerciaux desservant l'aéroport Toussaint-Louverture. Le nouveau premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a prêté serment hier en remplacement de Gary Conille, qui a promis de rétablir la sécurité dans le pays. A-t-il les moyens de sa politique? Gabi Dorcy l'a posé la question au journaliste Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouveliste.
Bon, en réalité, la chute du Premier ministre Kony arrive après un bras de fer avec le Conseil présidentiel de transition. Bras de fer d'abord sur certaines décisions que prenait le Premier ministre que le Conseil n'approuvait pas, sur des voyages qui ont été réalisés sans l'aval du Conseil présidentiel. Ensuite, le Conseil voulait changer des ministres, M. Kony s'y opposait. Et de bras de fer en bras de fer, le fil a fini par casser. M. Kony a été remplacé et par le Conseil présidentiel de transition ce week-end.
Donc, Alix Didier Fizeme est maintenant Premier ministre. Il a même déjà prêté serment. Qui est-il?
Bon, c'est un politicien et qui a surtout été connu comme étant président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. C'est le seul poste public qu'il a occupé avant. Il avait été candidat au Sénat pour le département de l'Ouest. Il n'avait pas remporté les élections à l'époque. Il était déjà pressenti pour être Premier ministre et c'est à la dernière minute qu'il avait été battu par Gary Conille la dernière fois qu'on cherchait un Premier ministre pour Haïti.
Mais après toute la saga de Ariel Henry, l'ancien Premier ministre haïtien, et tout le temps qu'il a fallu pour trouver une solution, entre guillemets, à cette étape de la crise, mais seulement après 5 mois, changer de Premier ministre, signe d'instabilité selon vous?
Signe d'instabilité, mais également c'est la logique qui est respectée. Gary Conille était venu de l'extérieur avec un autre point de vue, avec peut-être d'autres capacités, mais le ciment n'a pas pris. Gary Conille n'a pas pu faire le mariage avec le CPT. Aujourd'hui, on revient à quelque chose de plus traditionnel. C'est un politicien du Sérail, c'est quelqu'un qui a participé à des batailles politiques en Haïti et qui a des alliés en Haïti. Gary Conille avait un carnet d'adresses, mais il n'avait pas de contact réel sur le terrain. Cette fois, M. Fizeme arrive, il n'a pas un carnet national, mais il a des contacts sur le terrain.
À part ce que vous avez dit, Franz Duval, est-ce que Alix Fizeme a vraiment les atouts qu'il faut pour faire la différence, surtout dans cette situation?
Personne n'a les atouts qu'il faut. Personne n'a les atouts qu'il faut parce que personne n'a les moyens qu'il faut. Et personne n'a non plus les promesses de l'international pour faire mieux que ce que Conille ou bien ce que Ariel Henry avait pu faire.
Ce qui nous amène à parler du climat sécuritaire en Haïti. Il semble à presque tout le monde que la violence des gangs est incontrôlable. Quelle est la situation actuellement?
Bon, la situation, c'est la même. Là aussi, ça n'a pas beaucoup changé. Les gangs avaient annoncé dimanche soir qu'ils allaient déferler sur la capitale. Et lundi matin, on s'est réveillé. Il n'y avait pas de présence policière dans les rues. Il n'y avait que les gangs dans les rues. Et cela s'est terminé par ces deux avions qui ont été touchés par des balles perdues. Mais visiblement, des balles qui visaient ces avions. Et la police n'a toujours pas dit un mot. Aucune autorité ne s'est prononcée jusqu'à présent sur ce qui s'est passé hier. Et ce matin encore, pour au prince s'est réveillé, ne sachant pas trop quoi faire, il n'y a toujours pas d'école, il y a toujours le commerce qui est fermé, il y a très peu de transport public, tout le monde attend, tout le monde espère que ça ira mieux, mais ce n'est pas une intervention des autorités qui va calmer le jeu pour le moment, car les moyens sont limités.
Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. La région séparatiste du Somaliland en Afrique de l'Est doit organiser des élections générales le 13 novembre, alors que cette république autoproclamée cherche à se faire reconnaître par la communauté internationale et commence à jouer un rôle plus important dans la région. Que pourrait signifier le résultat pour la Somalie, la Corne de l'Afrique et au-delà? Henry Wilkins nous en parle. Récit Jean-Roger Billon.
Le Somaliland, région séparatiste de Somalie, organise ce mercredi des élections générales. Le président sortant, Moussé Biye Abdi, du parti Koulmiye Unité, espère décrocher un second mandat. Abdirahman Mohamed Abdilahi, du parti Wadani National, est son principal adversaire. Mais quel que soit le vainqueur, de nombreux électeurs estiment que la question la plus importante pour le Somaliland, qui a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, et d'obtenir enfin une reconnaissance internationale. Mahmoud Mohamed Hassan, enseignant.
Nous envoyons un message à la communauté internationale pour qu'elle reconnaisse notre pays. Le Somaliland est doté d'un gouvernement pleinement opérationnel. Il y a des partis politiques, une monnaie. Il est différent de la Somalie. Il est stable, c'est un pays démocratique.
Actuellement, aucun pays ni organisme international ne reconnaît le Somaliland comme une nation indépendante. Mohamed Abdirahman, analyste basé à Hargeisa, la capitale du Somaliland, affirme que les candidats sortants et ceux de l'opposition ont des approches très différentes.
Par exemple, le gouvernement actuel rejette la question du dialogue avec la Somalie. L'opposition pense qu'il est important d'engager un dialogue avec la Somalie. L'un d'eux pense davantage à la confrontation, l'autre au dialogue. C'est une opinion. L'autre point de vue est le protocole d'accord que le Somaliland a signé avec l'Éthiopie.
Le protocole d'accord signé en janvier 2024 donne à l'Éthiopie, pays enclavé, accès au littoral du Somaliland et à une base militaire côtière. Cette décision signale une volonté du Somaliland d'obtenir une reconnaissance et de jouer un rôle régional plus important. Selam Tadesse Demissier travaille à l'Institut d'études sécuritaires basé en Afrique du Sud.
C'est un enjeu majeur, pas seulement pour le Somaliland, mais pour la région tout entière. Désormais, l'accord conclu avec le Somaliland va au-delà de l'aspect économique et inclut également certains éléments militaires. L'espace maritime de la mer Rouge est un espace maritime très important, pas seulement pour cette région, mais pour le monde entier.
La Somalie est fermement opposée au protocole d'accord. La Chine, qui exerce une influence considérable dans la Corne de l'Afrique et qui doit faire face à son propre État séparatiste, Taïwan, s'est également prononcée contre l'accord. Mais selon Abdi Rahman, le protocole d'accord et le désir d'autodétermination du Somaliland ne disparaîtront pas, quel que soit le vainqueur.
Cela ne fait aucun doute. Tous les candidats à la présidence du Somaliland estiment que le Somaliland a droit à l'indépendance.
Demissier affirme que les gouvernements voisins sont réticents à reconnaître l'indépendance du Somaliland de peur d'encourager les mouvements sécessionnistes dans leur propre pays.
Ici aux États-Unis, au-delà de la promesse d'un retour à sa doctrine « l'Amérique d'abord », le président élu Donald Trump n'a pas donné de détails sur ce que sera la politique étrangère sous sa nouvelle administration. Mais les premières conversations qu'il a eues avec des dirigeants après sa victoire indiquent qu'il a l'intention de tenir ses promesses de mettre rapidement fin au conflit au Moyen-Orient et en Ukraine. Patty Ouida-Koussouara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit, Yacouba Ouedraogo.
La guerre entre Israël et le Hamas à Gaza et l'invasion de l'Ukraine par la Russie seront des tâches majeures du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Rien ne m'empêchera de tenir ma parole envers vous, le peuple. Nous rendrons l'Amérique sûre, forte, prospère, puissante et à nouveau libre.
Son investiture est prévue le 20 janvier, mais il s'est déjà entretenu avec quelques dirigeants du monde, notamment le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou dément les informations selon lesquelles Trump se serait entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Le président élu a fait campagne sur la nécessité de mettre fin rapidement aux guerres. Les analystes estiment qu'il veut tenir ses promesses. Charles Koupchan fait partie du Conseil des relations extérieures.
En ce qui concerne le Moyen-Orient, je pense qu'à certains égards, le message sera « Dépêchez-vous de terminer cette guerre ». Pour l'Ukraine, ce sera « Arrêté ».
Trump n'a jamais expliqué comment il comptait faire cesser les guerres, mais a souvent critiqué les milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine. Une fin rapide de la guerre pourrait impliquer des concessions majeures de la part de Kiev, ce qui, selon le président Zelensky, ne risque pas de se produire.
Nous voulons une fin juste à cette guerre. Je suis sûr qu'une fin rapide de la guerre entraîne des pertes.
Avec l'envoi par la Corée du Nord de soldats pour aider Moscou, la guerre en Ukraine pourrait avoir des implications plus larges à un moment où les tensions montent dans la péninsule coréenne. Donald Trump doit aussi traiter avec Israël, qui semble se concentrer sur des objectifs maximalistes plutôt que sur un cessez-le-feu, non seulement avec le Hamas à Gaza, mais aussi avec le Hezbollah au Liban. Ces deux groupes sont soutenus par l'Iran. Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien.
Nous voyons la menace iranienne dans toutes ses composantes et le danger qu'elle représente. Nous voyons aussi les grandes opportunités qui s'offrent à Israël dans le domaine de la paix et de son expansion.
Trump a aussi promis d'être intransigeant en matière de commerce, en particulier à l'égard de la Chine. Dans son message de félicitations à Trump, le président chinois Xi Jinping a appelé à des relations stables, saines et durables. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Xi Jinping a souligné que l'histoire a montré que la Chine et les USA bénéficient de la coopération et souffrent de la confrontation.
Trump a également promis de sévir en matière d'immigration clandestine et d'expulser massivement les immigrés sans papier. Lundi, il a donné suite à cette promesse en nommant Tom Homan, son ancien directeur par intérim du service de l'immigration et des douanes, au poste de star des frontières.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mounezero, à la mise en onde, Michel Joseph. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.